8h23 à Paris, la revue de presse des journaux français. Frédéric Couteau, bonjour.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
Et à la une ce matin, le couac des impôts locaux.
Oui, impôts panique au gouvernement, s'exclame le Parisien en première page. En effet, explique le journal, l'explosion des impôts locaux de centaines de milliers de retraités a provoqué un affolement au sommet de l'État. Les contribuables ne devraient finalement pas avoir à payer l'addition. Le problème, 250 000 retraités modestes qui l'on réclame pour la première fois cette année, le paiement de la taxe d'habitation. C'est la conséquence d'une mesure votée en 2008 sous Sarkozy, à savoir la suppression de la demi-part de quotient familial pour les veufs et veuves. Cet avantage fiscal a pris fin de manière progressive en 2013. La gauche l'avait rétabli pour 2014, mais cette année, elle a carrément oublié de le faire. Résultat, commente le Parisien, vent de panique donc au gouvernement. Manuel Valls qui monte au créneau. Et un ministre de la République, le secrétaire d'État au budget, Christian Eckert, qui appelle les contribuables à ne pas payer un impôt. C'est du jamais vu, s'exclame le journal. Une situation inédite qui témoigne au mieux d'un manque de coordination entre le gouvernement et son administration et au pire d'une coupable légèreté d'un certain nombre de responsables. Pour la République du Centre-Ouest, on ne peut que s'étonner que le gouvernement n'ait pas anticipé ce nouveau choc fiscal, ne serait-ce que pour éviter cet ascenseur émotionnel aux centaines de milliers de Français qui ont dû se dire l'espace de quelques jours qu'ils n'allaient plus arriver à joindre les deux bouts. Les associations de retraités les avaient pourtant prévenus. Une douzaine de députés socialistes avaient déposé un amendement sur la question de la demi-part des veufs et veuves en octobre 2013, quand certains membres du gouvernement actuel étaient sur les bancs de l'Assemblée nationale en 2008, quand la loi a été votée. En effet, s'agace la Charente libre, rien ne peut justifier le traitement en urgence absolue des effets indésirables d'une loi datant de 2008, que François Hollande a eu largement le temps d'amender lors de ses nombreuses mesures fiscales, rien sauf des errements en matière de prévision qui débouchent sur une improvisation confinant à la panique politique et dont l'impact prévisible dans les urnes ne s'effacera pas d'un trait de plume.
Effectivement, ce nouveau couac ne fait pas les affaires de la gauche au pouvoir à 5 semaines maintenant des élections régionales.
Et Libération de s'interroger ce matin, régional, déclic ou bien grosse claque, la gauche va-t-elle enregistrer une petite moyenne ou énorme défaite en décembre. Le journal passe au crible plusieurs scénarios, mais ne se fait guère d'illusions. Si Hollande et Valls ne changent rien, prévient Libération, ils s'exposent à une défaite en race campagne. Certes, ils agiteront le danger de voir droite et extrême droite monopoliser le second tour, ce qui revient à brandir le spectre de la défaite pour la conjurer un peu court. À moins, estime Libération, de rendre un peu d'espoir au camp progressiste en prenant des mesures qui favorisent la reprise et améliorent le sort des défavorisés. Il n'est d'autre manière de mobiliser son camp. Parler aux électeurs de gauche, c'est l'urgence de l'heure.
Parler, oui, François Hollande le fait beaucoup, mais cela ne donne rien, c'est du moins l'opinion du Figaro.
Une vingtaine de déplacements en 2 mois, note le Figaro. Une activité médiatique intense, jusque sur les réseaux sociaux. À l'approche des élections régionales, François Hollande occupe tous les terrains, mais sa boulimie de communication ne semble convaincre, estime le Figaro, ni les Français, comme le montrent des sondages en berne, ni sa propre majorité. Certains s'inquiètent même de cette frénésie de déplacement qui ne permet pas de renouer avec les électeurs et au final rend illisible son action. Commentaire du quotidien d'opposition, s'il souhaite qu'on retienne quelque chose de son quinquennat, François Hollande serait bien inspiré de prononcer des discours fracassants et transgressifs dans lesquels il inviterait la gauche à renoncer à ses chimères, notamment en matière de fiscalité, d'éducation, de sécurité et d'immigration. S'il ne le fait pas, et c'est malheureusement le plus probable, il se contentera, affirme le Figaro, d'observer le malencontreux cours des choses et de se lamenter vainement de la colère qui monte.
À la une également, le crash de l'A321 russe dans le désert du Sinaï avec cette question lancinante. Accident ou attentat?
Hier, notre Libération, rien ne permettait de trancher entre les deux hypothèses. La branche égyptienne du groupe djihadiste État islamique a revendiqué samedi avoir fait tomber l'avion en représailles au bombardement russe en Syrie. Cette revendication est contestée par les gouvernements égyptiens et russes qui privilégient, eux, une défaillance technique. Elle est cependant prise très au sérieux par les spécialistes de l'État islamique, l'EI n'ayant jamais menti sur une revendication. Les boîtes noires, à savoir l'enregistreur de conversation du cockpit et l'enregistreur de paramètres de vol ont été retrouvés et permettront d'en savoir plus. S'il y a eu attaque, comment s'est-elle produite? s'interroge pour sa part le Figaro. Très vite, trop vite, l'hypothèse d'un missile solaire a été écartée. A priori, les djihadistes ne disposent pas d'armes qui permettent d'atteindre un avion qui vole à son altitude de croisière, soit 10 000 mètres, ce qui était le cas du KGL 92-68 quand il a commencé à chuter brutalement 20 minutes après son décollage. Et dans les termes très précis du message de revendication, note le journal, nulle part est mentionné le fait d'abattre l'avion, mais bien de provoquer le crash. Alors, une bombe placée à bord de l'appareil reste envisageable, estime le Figaro. C'était la méthode utilisée pour de nombreux attentats, comme celui de Lockerbie en Écosse. Les contrôles de sécurité aérien manquent parfois de rigueur dans les aéroports égyptiens, mais peut-être pas au point de laisser une bombe passer en soute, à moins que l'État islamique n'ait réussi à infiltrer le personnel au sol. Et puis, dernière possibilité, relève encore le journal, celle d'un commando suicide à bord de l'avion. Les djihadistes de Wilayat Sinaï ont montré qu'ils étaient audacieux et déterminés. La précocité du crash, à peine 20 minutes après le décollage, pourrait soutenir la thèse de l'attaque kamikaze.
Enfin, pour terminer, après la déroute des Bleus au Mondial de rugby, le nouveau sélectionneur Guy Noves s'exprime ce matin dans l'équipe.
Oui, l'ex-entraîneur de Toulouse ne mâche pas ses mots. Si un joueur est sélectionné, je veux qu'il comprenne qu'il est un élu. Je considère que ces joueurs ne viennent pas pour prendre du plaisir, contrairement à ce que j'entends partout, mais pour en donner à leurs partenaires en jouant pour eux et au peuple français. Un pays te regarde, attend de toi. À partir de là, ça devient une guerre moderne, affirme Guy Noves. Le maillot avec le coq, c'est comme le treillis de l'armée française, une solidarité secrète qui débouche sur une attitude exemplaire. Si tu n'es pas dans cette dimension, prévient encore Guy Noves, il ne faut pas venir en équipe de France.
La revue de presse des journaux français signée Frédéric Couteau à retrouver à tout moment sur RFI.fr. Tout de suite le journal sur la radio du Monde.